Mesdames, messieurs, mes chers amis, je ne sais pas si j'arriverai à trouver en introduction les mots qu'il faudrait pour vous dire à quel point le sujet que nous avons à aborder ce soir est un sujet difficile. Et on ne peut l'aborder qu'avec énormément d'émotions d'une part et de tremblements. Et se poser la question d'une signification théologique de l'événement de la Shoah, ou du Hurban, comme on l'a dit mardi soir dernier, de cette destruction, et qui n'a pas complètement détruit le peuple juif, mais qui a posé en interpellation très dramatique un certain nombre de questions, non seulement à son existence, mais à sa pensée. S'approcher d'un tel sujet ne peut se faire que d'abord en toute humilité et uniquement sous forme de point d'interrogation. Nous sommes des contemporains de cet événement. Et il ne peut pas ne pas y avoir inévitablement des harmoniques blasphématoires, scandaleux, au fait de s'interroger quant à la perspective d'une explication d'ordre théologique, parce que, comme je l'indiquais déjà à la conférence de Manès-Ferber, inévitablement le peu de temps de recul et le peu de temps donné à notre réflexion fait que nous risquons toujours que la tentative d'une explication risque d'impliquer en harmonique une perspective quelconque de justification. C'est une des lois de la pensée humaine qu'il y a en nous-mêmes la communication de conscience entre la conscience psychique, la conscience morale, la conscience intellectuelle, la conscience spirituelle, et que lorsque l'intelligence prétend expliquer, elle risque, encore une fois, d'impliquer la perspective de justification ou de recherche de responsabilité. Donc, il faut que ce soit bien clair à notre esprit. Nous n'avons pas de réponse à donner avant le dévoilement explicatif du sens de la destinée humaine depuis l'origine, avant l'Apocalypse au sens étymologique, avant l'Apocalypse, ça ne signifie pas forcément la catastrophe, mais je veux dire avant le temps de l'eschatologie, où l'explication de l'histoire nous sera donnée de façon ultime. Donc il s'agit beaucoup plus pour nous d'essayer de prendre conscience de l'état du problème, parce que depuis quelques années, de certains milieux, surtout, comme vous le savez, de la part d'un certain nombre de théologiens juifs et non-juifs, surtout en Amérique, mais aussi en Europe, des thèses ont été formulées, des livres ont été écrits, beaucoup d'articles ont paru, et se cristallise un certain nombre de positions qui se présentent, je n'ose pas dire qui se prétendent, enfin qui se présentent comme des explications théologiques. Et très souvent, la frontière entre la problématique chrétienne parlant de la Shoah et employant le terme d'Holocauste, je sais, vous savez aussi que beaucoup de Juifs emploient le terme de Holocauste, et lorsque j'aurai à parler d'une des thèses que je voudrais décrire avec vous, devant vous, j'aurai à mettre l'accent surtout à la manière dont la pensée chrétienne utilise ce terme pour parler de cet événement. Il nous est parfois extrêmement difficile de faire le départ entre la sensibilité religieuse de Juifs qui parfois, sous forme naïve, spontanée, et peut-être parce qu'ils parlent des langues imprégnées des cultures qu'elles véhiculent, ces langues-là, emploient trop dangereusement, à mon sens en tout cas, ce terme d'Holocauste, en y véhiculant une doctrine du sacrifice dont, encore une fois, il est très difficile de faire le départ entre l'expression juive qu'elle pouvait prendre et son expression chrétienne. J'aurai l'occasion tout à l'heure, ce que j'avais annoncé mardi soir, de vous lire quelques fragments d'un texte important du père Marcel Dubois, qui, dans un numéro tout entier consacré à l'Holocauste, suivant son titre, du Service international de documentation judéo-chrétienne qui paraît à Rome, a traité dans un article dont j'aurais à dire qu'il est extrêmement bien écrit, avec beaucoup de prudence, avec beaucoup de tact, mais qui dit très clairement aussi qu'il est là, que la seule explication valable, c'est l'équation, l'Holocauste, c'est-à-dire la croix. Et d'autres thèses aussi auxquelles je ferai allusion sont extrêmement délicates à manier. Je pense que d'un point de vue purement de responsabilité d'éducateur, le monde des enseignants juifs est interpellé par ce problème. Il y a 3 ans exactement, le ministère de l'Éducation en Israël a demandé, et c'était déjà le temps où se développait cette prise de conscience de la nécessité non seulement de perpétuer le souvenir, mais de dévoiler ce souvenir à tous ceux qui, depuis ces dernières dizaines d'années, avaient tendance soit à ne pas savoir parce qu'on ne leur avait pas enseigné, parce qu'on ne leur avait pas transmis, ou à ne plus comprendre essentiellement la portée de ce qui s'était fait en Europe et à travers l'Europe, dans le monde où nous vivons, au temps du nazisme. Et en particulier, une des circulaires du ministère de l'Éducation demandait aux enseignants d'expliquer aux élèves israéliens des écoles en Israël, d'expliquer la concomitance et le lien de concomitance qu'il y a eu dans notre histoire et dans l'histoire contemporaine entre ces deux événements massifs, chacun à sa manière, la Shoah et la Tekouma. La Tekouma, c'est le terme qui est employé actuellement pour dire le redressement, Tekouma, la restitution, la ressuscitation, pour ne pas dire la résurrection, de la nation hébraïque en Israël. Et à ce propos, nous avons été obligés de mener, pas obligés, mais nous avons dû prendre conscience d'un certain nombre de difficultés, ne serait-ce que d'ordre pédagogique, pour aborder ce problème, étant donné les difficultés considérables d'élucidation du vocabulaire que nous employons pour traiter de ces choses. Ceux d'entre vous qui ont suivi les autres séances de ce séminaire se sont aperçus à quel point ce problème, qui est plus que méthodologique, qui est un problème culturel profond, de décodage et de recodage des catégories, des termes que nous employons pour traiter des réalités spirituelles, devient de plus en plus difficile. D'abord parce qu'il y a un élargissement des horizons culturels, non seulement à l'échelle de la population juive, mais à l'échelle générale, universelle, et énormément de formulations, parfois à cause de leur précipitation, de leur approximation, véhiculent des points de vue qui nous semblent extrêmement dangereux. Une des thèses auxquelles je ferai allusion tout à l'heure dans l'analyse, je vous en présenterai brièvement cinq différentes, une des thèses qui se propose ou prétend donner une explication d'allure théologique fait aussi un lien de causalité entre l'Holocauste comme sacrifice préparatoire, expiatoire et rédempteur, comme stade préalable à la possibilité de l'événement de l'État d'Israël. Vous devinez déjà, de la manière dont je l'introduis, que j'aurais aussi à critiquer cette thèse-là. Qu'il y ait de façon aussi schématique, rudimentaire, naïve, une tendance à exprimer les choses de façon aussi scandaleuse, si j'ose dire, doit nous alerter et nous faire travailler la formulation de ces problèmes pour essayer de mettre en évidence, derrière le lien de concomitance, une cohérence qui ne soit pas scandaleuse, une cohérence qui soit compatible au message des grands enseignements fondamentaux de la tradition biblique depuis l'origine. Je veux dire, à la limite, que vous devinez quel est ici l'obstacle principal, c'est à force de vouloir expliquer et sauver l'honneur de Dieu, finalement, on décrit un Dieu scandaleux. Un deuxième accent qui met l'accent grave de ce sujet ce soir, c'est la contemporanéité immédiate. Et pas seulement les procès Ginsburg et Charansky qui viennent de s'ouvrir, mais tout ce qui se passe depuis des mois dans le monde entier, que cela touche des juifs ou des non-juifs, que cela touche des hommes, et qui montre que de façon extrêmement inquiétante et angoissante, que peut-être cela n'est pas fini, et que peut-être l'humanité n'a pas encore tiré la véritable leçon en prise de conscience, en sursaut de prise de conscience de ce qui s'est passé à l'avènement du nazisme en Europe. En Allemagne, à l'échelle de l'Europe, mais en Europe, à l'échelle de l'humanité entière, ce que nous savons de ce qui se passe dans le vaste monde à ce sujet, de la manière dont la dignité humaine, partout et dans tous les paysages anthropologiques, est mise en question, ne peut qu'ajouter un accent grave à cette réflexion. Troisième principe qui en découle immédiatement, c'est que nous n'avons pas le droit de mener cette réflexion, sinon essentiellement pour essayer de prendre conscience des consignes de vigilance qu'il faut tirer du fait que cela n'est pas fini. Ça n'a aucun sens de jouer les prophètes de malheur, d'ailleurs de jouer les prophètes tout court, mais il est bien évident qu'on ne peut pas ne pas mettre en évidence l'atmosphère dans laquelle, ces dernières années, cette année en particulier, cette réflexion nous est renvoyée par la contemporanéité des événements et des événements quotidiens. L'histoire immédiate montre que ce n'était pas une péripétie. C'est une tendance fondamentale de la civilisation contemporaine que de risquer que cela recommence. Bien, je voudrais tout de suite énumérer les cinq thèses que, assez schématiquement, mais il est inévitable que cela soit ainsi, dont j'ai pu prendre connaissance le long de mes réflexions et de mes recherches à ce sujet depuis quelques années. Une première thèse consiste à remettre en question la manière traditionnelle dont la conscience juive se reliait à l'idée de son Dieu, c'est-à-dire de remettre en question la notion de Dieu du monothéisme hébraïque, juif, tel que traditionnellement elle nous était connue, et donc prendre conscience qu'il est arrivé quelque chose de radicalement nouveau. Cela peut être discuté. Est-ce que vraiment, indépendamment des dimensions de l'horreur, des dimensions de l'événement, et dans le nombre et dans la manière dont les événements se sont passés, est-ce que l'on peut dire, c'est une question en tout cas que je pose, qu'il y a quelque chose de radicalement nouveau, qui pose une question radicalement nouvelle? Personnellement, j'ai tendance à le penser. Ce qui s'était passé avant et qui nous est raconté, d'abord dans les très anciens récits de l'histoire hébraïque tels que la Bible nous les a gardés, puis dans notre mémoire de peuple qui a traversé tant et tant de civilisations, et chaque fois que c'était un temps de fin de civilisation dans des catastrophes qui ressemblent peut-être en préfiguration, en répétition générale, un peu comme les événements de l'Espagne ont pu être dans le temps de notre civilisation occidentale, une répétition générale du temps du nazisme. Mais j'ai personnellement tendance à penser que malgré tout, il y avait là une dimension radicalement nouvelle. Le caractère systématique avec lequel, comme Manès Perber l'a très bien d'ailleurs indiqué, à l'intérieur même d'une cohérence de l'identité juive, se coulant de façon démoniaque dans les formes de la tradition juive elle-même, eh bien, le nazisme a fait fi de toute justification à donner. Il suffisait pour lui d'une définition massive, juif égale poison, juif égale anti-homme, juif égale le diable. Et lorsque nous avions entendu cela dans la bouche d'autres cultures antisémites, eh bien, c'était souvent une façon de parler. Mais là, c'était vraiment plus qu'une façon de parler. C'était une réussite de propagande qui a fait que, et je n'oserais pas dire que peut-être certains juifs aussi ont été contaminés par cela, mais que, semble-t-il, une sorte d'évidence est apparue à l'échelle universelle que juif égale le mal absolu. Et donc, on ne nous reprochait plus nos comportements, nos actes de fidélité juive, mais dans la forme même de ces actes et de cette fidélité, on nous reprochait de façon massive notre identité, notre existence comme identité. Un de mes maîtres, que je cite souvent, Jacob Gordenzal, disait qu'au fond, il fallait déceler tout de suite que l'ennemi du nazisme, c'était bien le peuple juif, mais c'était surtout le Dieu des Juifs. Et il le disait sous une formule qui nous est restée de façon très éclairante, en disant que tout se passe comme si le nazisme avait deviné que si on supprimait le témoin du Dieu de la Bible sur terre, c'est-à-dire le peuple juif, alors on arriverait enfin à supprimer la présence du Dieu dont parle la Bible. Je ne dis pas le Dieu des Juifs, ce serait trop restrictif, mais du Dieu de la Bible. Et qu'il y avait là une détermination absolument systématique. À mon sens, c'est là la dimension nouvelle et qui pose une interpellation théologique nouvelle. La première thèse dont je parlerai assez brièvement, je voudrais me borner à les annoncer dans l'articulation de l'analyse, ce serait celle qui mettrait en question l'existence du Dieu dont parle la Bible pour incompatibilité avec l'histoire, ce qui s'est passé dans son monde, tel que nous l'avions connu de façon traditionnelle jusque-là, comme s'il y avait vraiment un événement nouveau d'interpellation. Bien sûr, beaucoup d'entre vous qui ont une érudition suffisamment familière avec les sources, savent que déjà cet argument a été employé dans les siècles antérieurs et dans les millénaires antérieurs. Puisqu'il se passe là quoi que ce soit, alors c'est que donc on s'était trompé et que peut-être Dieu n'existe pas, entre guillemets. Et bien sûr, cette attitude a déjà existé, mais là je pense que l'événement lui donne une portée peut-être renouvelée. Et cette position, je l'ai trouvée dans deux formulations très différentes, sous la plume de deux auteurs américains, l'un Richard Rubinstein, qui conclut pour ce qu'il appelle lui-même plus qu'un athéisme juif, un paganisme juif, c'est-à-dire une insertion de l'existence juive dans l'histoire du monde tel qu'il est, mais en renonçant à cette espérance qu'il y a un souverain qui dirige tout-puissant qui dirige l'histoire, et par conséquent, en se préparant à n'être déçu de plus rien pour avoir été déçu de tout. C'est grosso modo sa thèse. Une deuxième nuance se trouve dans un article qui est apparu dans Information juive il y a quelques années, en 1975, si je me souviens bien, sous le nom signé par Stanley Rabinovitch, et qui lui conclut au dualisme. Je dirai très rapidement, ensuite je vous donnerai dans l'analyse de chacune de ces thèses quelques citations, au dualisme. Et là encore, c'est le refus de la théologie juive, disons classique, traditionnelle, en ce sens que jusque-là, les juifs se seraient trompés de croire que le monde est dirigé par un Dieu unique, qui est souverain et du bien et du mal. Et vous voyez tout de suite à quel point nous sommes gênés par le vocabulaire. Mais enfin, le monothéisme strict, absolu et cohérent de la tradition juive, qu'en réalité, Dieu n'est que le principe des forces du bien, et que, par conséquent, pour pouvoir encore se situer dans le monde en tant que juif et croyant, il faut renoncer au monothéisme, et il faut donc adopter, sous une forme ou sous une autre, un dualisme religieux, de telle sorte de ne pas avoir à imputer au Dieu unique tout-puissant l'horreur de ce qui s'est passé dans son monde. C'est un ménagement des positions théologiques traditionnelles, soit dans la première nuance, retour à ce que serait un paganisme hébreu ou un paganisme juif, donc un cananéisme, si vous voulez, du point de vue de ce que serait la culture de la société juive après la Shoah. La deuxième nuance, un dualisme. Nous aurons à parler, surtout si vous le demandez, de ces deux thèses, mais vous devinez immédiatement qu'elles n'ont plus rien à voir avec la tradition juive elle-même, telle que nous l'avons connue. Une deuxième thèse à laquelle je me référerai, aussi dans deux nuances, c'est la thèse du sacrifice. C'est le fait que, d'une manière ou d'une autre, il faut admettre cet événement comme un événement de sacrifice. Comme un événement de sacrifice expiatoire, rédempteur. Et lorsque je vais reprendre cette thèse, j'essaierai de dire à quel point, dans sa nuance chrétienne, il y a là, de la part de la conscience chrétienne, énormément de compassion, énormément de ferveur, énormément de grandeur, parfois de grandeur d'âme, je veux dire, mais qu'il y a aussi subrepticement une sorte de justification de ce sacrifice parce qu'il serait nécessaire, pour les raisons que la théologie chrétienne se donne à elle-même, il serait nécessaire pour le salut du monde. Une sorte de justification a posteriori de la croyance chrétienne que l'identité juive a comme économie, fonction fondamentale et principale et essentielle de souffrir pour le salut du monde, de porter les péchés du monde. C'est dans une toute autre nuance, dans une toute autre formulation, qu'on trouvera en milieu juif aussi cette thèse de la Kapara, de la Ola, l'Holocauste. Abraham est prêt à aller jusqu'au sacrifice de son fils. Et je voudrais revenir sur ce point pour indiquer les limites, en tout cas la différence qu'il peut y avoir avec le modèle du sacrifice d'Isaac, tout cela malheureusement trop rapidement. Et simplement en rappelant ce dont nous avons déjà parlé mardi soir avec Manès Perber, c'est qu'il y a une grande différence essentielle, malgré tout. Le sacrifice d'Isaac n'a pas eu lieu. J'expliquerai aussi qu'il est bien évident que dans cette comparaison, si le sacrifice d'Isaac avait eu lieu, cela aurait signifié que le peuple juif tout entier aurait disparu, ce qui n'est pas le cas. Après la Shoah, nous sommes les rescapés. Mais malgré tout, c'est la fonction de ce sacrifice qui reste incompréhensible dans une thèse pareille. En vue de quoi Abraham a été éprouvé à travers ce sacrifice d'Isaac, ou Isaac lui-même a été éprouvé à travers ce sacrifice auquel il était prêt et auquel Abraham était prêt et consentant a priori. Il ne me semble voir aucune analogie avec ce qui s'est passé dans l'événement au niveau de la Shoah. C'est donc dans un autre registre que nous essaierons de trouver la cohérence des tenants de cette thèse que j'ai dit assez longuement mardi, je ne voudrais pas trop revenir là-dessus, qu'il y a une différence, et aussi sur, dans l'étude du Kiddush Hashem que nous avons eue donc jeudi après-midi, okay, qu'il y a une différence entre le Kiddush Hashem a priori et le Kiddush Hashem a posteriori. Il y a une différence entre l'invite au sacrifice éventuel qui s'attache à la condition juive, ceci formulé en cohérence théologique, bien entendu, et une différence entre le fait de l'assumer a posteriori, avec toute la ferveur dont beaucoup ont été capables, et beaucoup, c'est des milliers, des centaines de milliers, des millions, à l'échelle d'une expérience spirituelle inouïe, à l'échelle individuelle. Il y a quand même une grande différence entre le fait de savoir qu'il y ait une éventualité du sacrifice, parce que juif, tout simplement, mais d'autre part, la question de savoir comment est-il possible que le Dieu dont parle la Bible ait créé un monde tel où l'éventualité d'un tel sacrifice soit possible à une telle échelle. Ce sont quand même deux problèmes complètement différents si on les envisage a priori ou a posteriori. Il y a une troisième thèse, c'est la thèse qui consiste, bien entendu, à dire d'autre part que les dimensions de l'événement ont été radicalement différentes que de tout ce qui a pu se passer dans l'histoire du monde et pas seulement par rapport au peuple juif, mais que cependant, tout en le disant d'autre part, de traiter ce problème comme s'il s'agissait du problème du mal en général. Le fait que le mal existe dans le monde. Et le fait que le mal existe dans le monde peut mener le mal à des limites d'horreur, à des limites d'intensité. Le mal n'a pas de limite à partir du moment où il se déchaîne le mal n'aurait pas de limite. Et à cette thèse se rattache un certain nombre d'expressions clés que certains auteurs contemporains emploient beaucoup. On citera souvent l'expression « le silence de Dieu ». Et rappelez-vous que dans l'histoire de Job, Dieu en fin de compte a parlé. Et donc là aussi, la comparaison est difficile à mener jusqu'au bout. Il y a eu silence de Dieu pendant toute la souffrance de Job, mais à la fin, Dieu a parlé. En tout cas dans la cohérence biblique de ce livre. Ou l'éclipse de Dieu. Thème qui est surtout attribué à Buber, qui a effectivement employé cette expression de l'éclipse de Dieu, thème bien ancien, d'origine talmudique et kabbaliste, Astarat Panim, le temps de la face cachée. Et puis, ou bien cette troisième expression qui va aussi dans le même sens, le fait que Dieu soit caché. Je vais me servir tout simplement d'un chapitre d'un des livres de Monsieur qui est l'exil de la parole, parce que ce chapitre a été cité dans la brochure que je vous ai citée tout à l'heure comme une des explications théologiques du point de vue juif de cet événement. J'essaierai autant que je le peux d'indiquer la vraisemblance d'une telle thèse qui, dont l'essentiel pourrait se formuler ainsi. Étant donné que Dieu se devait de créer l'homme libre, alors comme créateur, il a pris le risque du déchaînement du mal, parce que c'est la liberté qui explique que le mal soit possible. Et cette thèse a une cohérence pour elle-même. Mais j'essaierai aussi, après avoir tenté de montrer la vraisemblance de cette thèse, d'en détruire complètement l'aspect de vraisemblance. Et la question qui se posera à nous, c'est que Le fait, en particulier par rapport à cette thèse d'explication par la liberté, et qui répondrait donc à la formulation de la question ainsi posée, comment se fait-il que ce soit tout simplement possible? Eh bien, la réponse, c'est parce que Dieu se devait de créer l'homme libre. Et le principal obstacle, c'est que, indépendamment de l'aspect universel du problème, en ce sens que pas seulement les Juifs ont supporté les horreurs du nazisme. Mais c'est une catastrophe qui a atteint l'humanité entière. Et M. Neher, d'autre part, a absolument raison de dire que cette catastrophe, qui s'appelle Auschwitz, avec son corollaire Hiroshima, et la bombe atomique est le signe, le symptôme d'une grave maladie de l'humanité contemporaine qui n'est pas guérie. Mais il y a, indépendamment de cet aspect universel de la catastrophe, bien sûr, qui a été ressenti centralement par le peuple juif et aussi par beaucoup de non-juifs qui en traitent au titre du peuple juif. Nous ne pouvons pas oublier que le Dieu unique auquel se réfère la tradition juive est lui-même un Dieu unique à l'échelle universelle. Et donc c'est à l'échelle de Dieu comme créateur, lui-même étant providence de l'histoire, qu'une question se pose. Il y a une alliance avec l'humanité. Il y a une alliance avec le premier homme, il y a une alliance avec Noir et avec l'humanité de Noir, et il y a une alliance avec Israël. Il y a des conditions de l'alliance, et semble-t-il, l'alliance n'a pas joué. Si nous n'étions que philosophes, alors cette perspective du risque de la liberté pourrait peut-être suffire intellectuellement à nous proposer une explication. Mais le sujet de ce soir n'est pas dans les coordonnées de la pensée philosophique. Il est dans la cohérence de la tradition théologique, théologique entre guillemets bien sûr, mais vous comprenez ce que cela signifie, de l'enseignement de la Bible. Or il y a une alliance entre le Dieu créateur et les hommes comme être responsable de sa co-responsable, responsable de sa création. Et la question ici va se renouveler. Comment se fait-il et comment comprendre que l'alliance n'est pas jouée? Nous verrons à cela plusieurs types de réponses. Je veux dire que, après avoir cité cette thèse de la liberté dans son envergure propre, j'aurai à la critiquer au nom de la notion d'alliance et avec, en fin de compte, cette question, pourquoi l'alliance n'a pas joué. Et je le dis très, très profondément, pas seulement pour les juifs, mais aussi pour les autres hommes, d'autant plus que les autres hommes qui ont souffert du nazisme seraient d'un certain point de vue des victimes secondes. Victimes parce que les juifs devaient être atteints, alors les autres hommes ont été atteints aussi. Vous voyez que nous allons de scandale en scandale et de horreur en horreur, précisément à l'intérieur de cette même thèse. Et là, je dois vous dire qu'à ce sujet, il y a deux types d'explications possibles. Vous verrez, vous entendrez vous-même très rapidement de laquelle je ferai mon point de vue strictement personnel, mais je me dois purement et simplement d'expliquer les deux positions, d'expliquer les deux thèses. Si vous voulez, je peux le dire extrêmement brièvement, en tout cas pour la première, qui est un enseignement d'ailleurs classique et faut cohérent pour lui-même, c'est que cette manière apocalyptique de l'antisémitisme et de l'antisémitisme qui n'est pas n'importe quelle xénophobie a atteint le peuple juif en cours d'émancipation mal faite, en cours d'émancipation qui menait à sa déjudaïsation, et que par conséquent il était inévitable qu'une des clauses, des imprécations de l'alliance, si j'ose dire, risque de jouer. J'essaierai de développer cette thèse dans sa cohérence propre et j'essaierai aussi de développer une toute autre thèse à laquelle j'adhère plutôt personnellement, et que, à mon sens, cela ne suffit pas pour restituer une cohérence minimum de ce problème, parce que c'était bien évidemment un temps où toute protection du monde a été suspendue, et encore une fois, pas seulement pour les juifs mais pour tous les hommes qui ont eu à accompagner les juifs dans cette histoire, avec une sorte d'arbitraire de la distribution du sort. Un piège s'est refermé. Et je crois que c'est l'essentiel de ce point de vue du problème, de ce point de ce problème. Et je crois qu'aucun homme vivant, et peut-être, comme je le disais tout à l'heure, jusqu'au temps de l'explication finale au jugement dernier, n'arrivera à comprendre au même niveau la cause et l'effet. À la limite, oui, c'est très grave que le peuple juif se dénature. Mais mille questions apparaissent tout de suite, et même si c'était dénaturé. Comment comprendre que cela mène à une telle réponse de la part de l'histoire sous le regard de Dieu? Et peut-être y avait-il là une stratégie que l'on n'a pas su deviner, une stratégie de survie. À mon sens, et c'est la thèse que j'expliquerai plus exactement de mon point de vue, c'est il y avait peut-être suffisamment de temps pour préparer une stratégie de fuite. Et qu'est-ce qui a empêché? Et je vous rappellerai très brièvement, la vraie question, c'est qu'est-ce qui a empêché la fuite? On a parlé le salut dans le sens de se sauver, et de se sauver avec les pieds, si vous voulez. On a parlé d'un aveuglement. Mais on a dit aussi, à juste raison, que cet aveuglement n'était pas total. Énormément de chefs du peuple juif, chefs, c'est pas le mot qu'il faudrait employer, mais de responsables de la vie juive, savaient que ça risquait d'arriver, et savaient que ça venait, et ça venait. Mais il y a eu un piège qui s'est refermé. Qu'est-ce qui a empêché la stratégie de fuite? Et encore une fois, de telle sorte de pouvoir comprendre à la hauteur de la cohérence du monde, en cohérence avec la tradition monothéiste biblique. Et simplement sur ce point, je rappellerai l'équation Caïn-Abel, telle qu'elle est reprise dans l'histoire d'Israël à son commencement, Jacob-Ésaü. D'une certaine manière, Jacob est un Abel qui s'est enfui devant Ésaü. Et s'il ne s'était pas enfui devant Ésaü, Jacob aurait été le Abel de son Caïn. Et bien entendu, inévitablement, nous aurons à aborder le problème de la fonction de la dispersion, puisque c'est en diaspora que cela s'est passé. Cette tentative d'anéantissement du peuple juif telle que le nazisme l'a menée. Mais quelle que soit la fonction de la dispersion, est-ce qu'il n'arrive pas à un certain moment, s'il y a échec, et laissons cela encore un peu dans le vague, échec comment, échec pourquoi, échec où, par qui, mais s'il y a échec à un point aussi grave, est-ce qu'il n'y a pas une possibilité de recommencement de l'espérance dans un salut de fuite? Et il semble bien que cela a été la stratégie de Jacob. La mère de Jacob, Rebecca, a vu ce problème pour son fils et lui a conseillé la fuite, parce qu'elle savait très bien que si il restait auprès de son frère Ésaü, elle serait, comme dit le texte hébreu, veuve des deux le même jour. Vous savez qu'en hébreu, pour dire une femme qui a perdu son enfant, d'une veuve de son fils, de son enfant. Peut-être que, comme je vous l'avais dit à propos d'autres études, peut-être que nous étions arrivés à un temps où il fallait prendre conscience et prendre acte que, quelle que soit la fonction de salut que le juif a assumée dans la dispersion pour le salut du monde et donc des hommes, Caïn était devenu inéducable. Et à côté d'un Caïn inéducable, Abel est en danger. Et comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de Rivka qui ait parlé à Jacob en ce temps-là de façon suffisamment claire pour dire « Je sais bien que c'est ton frère et de qui on parlait des nazis. Je sais bien que Ésaü, le Édom, je sais bien que c'est ton frère, mais sauve-toi. » C'est donc est apparu quelque chose de beaucoup plus grave, peut-être, que Jacob par rapport à Ésaü. Peut-être que c'était l'apparition d'Amalek. Mais nous étions aussi avertis depuis toujours de la gravité de l'apparition d'Amalek. Et comment se fait-il, si c'est le cas, que l'on n'est pas diagnostiqué? On l'a fait a posteriori, mais que l'on n'est pas diagnostiqué à temps qu'Amalek était apparu. Encore une fois, vous sentez bien qu'on ne parle pas d'un antisémitisme quelconque. On ne parle pas d'une xénophobie quelconque, fût-ce l'antisémitisme ainsi désigné. Il y a quelque chose de beaucoup plus grave. Il y avait volonté d'anéantissement systématique, mais, comme l'a ajouté Manès Perver, avec une volonté plus que sadique d'humiliation absolue. Et tout ceci a eu lieu. Alors comment se fait-il que l'alliance n'ait pas joué? Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de diagnostic, de stratégie de fuite? Et au fond, si je me distancie un peu de l'explication théologique traditionnelle, classique, qui consiste à faire allusion à l'éventualité du sacrifice ultime puisqu'on est juif, ce serait sur ce point. N'y avait-il pas une autre stratégie possible? N'y avait-il pas une stratégie de fuite? Et je voudrais être bien clair, en tant qu'Israélien, je dirais, pourquoi pas en Israël, mais partout ailleurs, là où on pouvait se croire à l'abri. Peut-être qu'il n'y a plus d'abri nulle part, c'est aussi un problème que l'histoire contemporaine nous renvoie. Peut-être qu'il y a eu un manque de capacité de diagnostic. Et j'entends bien que le scandale ne sera jamais évacué. et même une faute, je citerai des textes tout à l'heure, mais et même une faute aussi grave soit-elle de manque de vigilance dans le diagnostic d'une stratégie possible, non pas de salvation, mais de ce salut pour se sauver, comme je disais tout à l'heure, se sauver en courant. Et est-ce que c'est à la hauteur de ce qui est arrivé? Est-ce qu'une telle sanction pour une telle faute? Et enfin, en quatrième thèse, je parlerai donc du problème que j'annonçais en introduction, de cette thèse qui consiste à dire de façon imprudente, plus que naïve, vraiment irresponsable, que c'était le prix à payer pour avoir l'État d'Israël. Il me suffirait peut-être de réfuter cette thèse en une seule phrase. Si c'était le prix à payer pour avoir l'État d'Israël, nous étions prêts à attendre 6000 ans encore, et même 6000 éternités. Je crois que c'est une thèse qui n'a aucun fondement, sinon l'irresponsabilité. Mais il y a certainement un problème de concomitance que nous ne pouvons pas refuser et sur lequel nous serons invités à réfléchir. Et en fin de compte, j'arriverai à un cinquième type d'explication que je baserai plus directement sur certaines thèses. C'est une explication que vous entendez peut-être peu souvent ici en diaspora, mais qui est d'une façon générale une des argumentations principales des Neturei Karta. Je m'explique. Je pense que vous savez plus ou moins qui sont les Neturei Karta, mais on connaît parfois moins leur argumentation. Et qui consiste à dire qu'il y avait une promesse de ne pas revenir en Eretz Israël dans les circonstances où finalement le mouvement sioniste est revenu, qu'il y avait une promesse assortie de clauses de menaces et que la clause a joué. Nous verrons ça dans le texte assez rapidement et que par conséquent. Et j'en arrive, si vous voulez, à la dernière, et qui est au fond la thèse la plus scandaleuse, que la Shoah était la punition du sionisme. Et je ne me permettrai pas de citer une thèse aussi énorme, hein, si elle n'existait pas historiquement. Et bien que dans peu de milieux, cela est formulé avec un tel degré d'horreur, si vous voulez, mais malgré tout, c'est quelque chose de diffus et de dilué, qui vient d'une interprétation tendancieuse des textes, et je pense qu'assez rapidement j'arriverai donc à décrire devant vous ces différents points. C'est intentionnellement que j'ai conduit une introduction d'approximation aussi longue, de telle sorte que nous ayons des repères des différents développements de ce problème. Et vous me direz, en fin de compte, et vous, personnellement, qu'est-ce que vous pensez? Eh bien, je pense surtout qu'il y a eu là un piège qui s'est refermé et que c'est au fond la ligne d'articulation la moins scandaleuse, parce que évidemment le piège s'est refermé. Pourquoi le piège s'est-il refermé? Devons-nous comprendre que le piège s'est refermé comme punition, et de quoi? Ça, je crois qu'il faut laisser à chacun le courage personnel et individuel de se donner à lui-même sa propre réponse éventuellement, ou le cas échéant. Mais je crois que c'est surtout dans les perspectives d'avenir que cette réflexion doit être profonde. J'essaye de dire les choses de la façon la plus neutre possible. Sommes-nous sûrs que ce piège ne s'est pas de nouveau ouvert et qu'il ne risque pas de nouveau, ça ou là, de se refermer? Encore une fois, je ne dis pas seulement à cause des événements immédiatement contemporains, mais à cause de l'atmosphère générale de la politique mondiale contemporaine. Les hommes devraient savoir en général que lorsqu'on s'attaque aux Juifs, et bien les autres passent aussi après dans le même sort. Mais les Juifs savent aussi que lorsqu'on commence à s'attaquer à la manière dont on le fait, à ce qu'on appelle en Occident les droits de l'homme, la dignité de l'homme de façon élémentaire et sans aucun scrupule, sans aucune réticence vis-à-vis de l'apparence même de l'égalité, alors ce sont les Juifs qui sont les plus en danger immédiatement et dangereusement. C'est cela la leçon de notre histoire. Alors, je ne savais pas à l'avance comment cette introduction trouverait son point de chute principal, mais je crois que c'est très certainement cette notion de l'expérience d'un piège qui se referme et qui, à un certain moment, va se refermer. Et toute la problématique des pourquoi devrait, pour pouvoir être assuré d'un quelconque éclairage, partir de là et revenir là. Découvrir que l'histoire des Juifs, l'histoire d'Israël dans son ensemble, implique le risque d'un piège et qu'il est nécessaire de le diagnostiquer à l'avance. Ceci aussi pour dire ce que je voulais dire tout au début, que bon, vous comprenez bien, j'y ai fait allusion, je ne parle dans tous ces problèmes qu'à un titre strictement personnel et en ne mettant en jeu aucune orthodoxie d'aucune institution que ce soit, ni une institution de diaspora, ni bien entendu le gouvernement d'Israël au nom de qui je ne parle pas aujourd'hui. Bien. Alors, en tout cas, abordons déjà, si vous voulez, très rapidement quelques citations de ces premières positions. Premièrement, le refus du monothéisme. Et je demande quelques secondes pour retrouver mes textes. Je crois que le texte principal qu'il faut citer est un texte de Stanley Rabinovitch. Je vais vous donner la référence. Je pense que nous devons remercier les journaux et les revues et les bibliothèques qui nous gardent ces documents. C'est un texte qui est apparu dans Congress Digest en anglais, en américain, et qui a été traduit par Yvonne Lévy dans un numéro de l'information juive de l'année mars 1975. Voici le paragraphe principal qui me semble éclairer ce problème. C'est la thèse du dualisme. Et donc, Rabinovitch pose la question de la manière suivante. Où était Dieu? Il ne se cachait pas. Il était seulement impuissant. Je crois que cette phrase donne l'essentiel. Selon cette thèse, parler d'un Dieu tout-puissant par rapport à notre problème, c'est finalement renoncer définitivement à dire de lui aussi qu'il est juste et qu'il est bon, étant donné ce qui s'est passé. À moins de dire que la véritable justice absolue, la véritable bonté absolue, est à une échelle qui nous dépasse. Mais à ce moment-là, il ne faut même pas se poser le problème. Il ne faut même pas oser se poser le problème, mais à l'échelle générale de toutes les péripéties de la vie humaine, vues d'un point de vue théologique. Où était Dieu? Il ne se cachait pas. Il était seulement impuissant. Nous devons, dit Rabinovitch, associer Dieu avec l'idée du bien, même si cela limite en partie son pouvoir. C'est plus qu'en partie, c'est totalement. Parce que là, nous sommes renvoyés au dualisme zoroastrien, qu'il y a éternellement deux principes qui se combattent, le principe du bien et le principe du mal, et vous savez très bien que c'est contre cette position zoroastrienne que la liturgie du Kriachmar en particulier, mais que toute la liturgie de la prière juive monothéiste a été formulée. Et cette formulation nous a été donnée essentiellement à la suite de la traversée de cette civilisation par le peuple hébreu, par le peuple juif, après la destruction du premier temple, où c'était le temps des civilisations dualistes et qui ont été extrêmement fortes et extrêmement riches. Le christianisme, pour sa part, a dû aussi se confronter et lutter contre ce dualisme zoroastrien à sa manière. Donc, on ne peut pas dire que cela limite en partie son pouvoir. Du point de vue de la sensibilité monothéiste hébraïque, cela évacue toute espérance. Parce que si la réalité du monde, si la vérité du monde est qu'il y a deux principes à l'échelle de l'absolu, shterashuyot, comme nous disons en hébreu, qui se combattent, et que l'une n'a pas encore triomphé de l'autre, d'où vient la chance qu'il y ait triomphe un jour? D'où viendrait l'espérance? Or, c'est contre cette thèse, c'est contre cette intuition du monde de dualisme profond que l'intuition hébraïque de l'espérance a affirmé le monothéisme radical. Rabinovitch continue à dire, il vaut mieux adorer un Dieu qui n'a pas pu nous sauver et qui est totalement bon qu'adorer un Dieu qui aurait pu nous sauver mais qui ne l'a pas voulu. Vous voyez donc la difficulté d'approche de ces problèmes. Dieu est la puissance qui inspire à l'homme la recherche du bien. C'est vrai aussi, mais le dualisme privilégie un aspect des midot, un aspect des attributs et finalement détruit la base même du monothéisme à l'intérieur duquel la question se pose. Bon, ce que Rabinovitch cherche, de façon noble d'ailleurs, c'est se rassurer en tant que croyant. Il cherche non pas la consolation, non pas l'explication qui donnerait la consolation, mais l'explication fut-elle tragique, parce que la conscience dualiste est tragique, mais l'explication qui restituerait une cohérence à l'histoire et en particulier à l'histoire des croyants. Il ne peut être tenu pour responsable, car les camps de la mort ont été la conséquence de l'échec de l'homme à se conformer aux enseignements de Dieu. D'une certaine manière, ça se relie un peu, par un certain biais, à la thèse de la liberté. Car les camps de la mort ont été la conséquence de l'échec de l'homme à se conformer aux enseignements de Dieu, c'est-à-dire conséquence de la liberté de l'homme qui fait que l'homme est peccable et peut ne pas se conformer aux enseignements de Dieu. C'est seulement à cette condition, dit Rabinovitch, que nous pouvons continuer à réciter sans réserve Anima Amin, à condition de transformer complètement notre croyance et de ne plus croire qu'au bon Dieu, entre guillemets, c'est-à-dire non au Créateur unique, mais à une des deux forces qui se partagent le monde.